Nous allons lire trois textes ce matin. Le premier, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 7. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Puis nous lirons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 18, les versets 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 60 fois 7 fois. » En fait, c'est 70 fois 7 fois. Et puis le dernier texte sur lequel portera la prédication de ce matin, il s'agit d'un texte dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, versets 22 à 27. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un dieu inconnu. » Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Sanctifie-nous par ta parole. Et nous chanterons le cantique numéro 216, les strophes 1, 2 et 3.
Thank you.
Prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent. Que faire quand notre avenir est incertain? Que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces? Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions bâtir ton royaume en annonçant, en guérissant et en aimant. Seigneur, de notre espérance et de notre foi, nous te cherchons dans la méditation de cette écriture ancienne, à l'écoute de ta parole, source de nouveauté. Amen. Notre Dieu est-il interchangeable? Le Dieu inconnu que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Notre Dieu est-il universel, interchangeable? Est-ce le Dieu des Athéniens du temps de Paul? Est-ce le Dieu des Juifs? Est-ce le Dieu des Cathares ou celui des Croisades? Le Dieu des musulmans chiites d'aujourd'hui? Ou celui des Ottomans du XIIe siècle? Ce Dieu des uns, vengeur, qui punit, est-il le même que celui des autres, qui protège et qui comprend? Frères et sœurs, chers amis, en réfléchissant depuis quelques semaines à cette prédication qui s'annonçait pour aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelque chose de l'après 11 janvier 2015, qui a été pour nous une telle déflagration. Cette totale incompréhension que nous avons eue de ce geste terroriste et qui se réclamait malgré tout d'une foi. Une foi en un Dieu qui a quelque chose à voir avec le nôtre. Souvenez-vous de cette vidéo qui a tourné en boucle et qui montrait ces deux jeunes tueurs qui crient « On a vengé le prophète Mohammed, la Kalachnikov à la main, à 200 mètres d'ici ». Et donc je cherchais dans la Bible des textes sur la violence et la paix, la tolérance et le pardon. Je pensais à un thème du style « la tolérance jusqu'où ?»,« pardonner l'impardonnable », etc., etc. Et puis en me plongeant dans quantité de notes, d'articles et de comparaisons entre Bible, Coran, histoire et pratiques religieuses, des uns et des autres, j'ai écarté l'analyse comparative, forcément un peu simpliste, et préférer me demander si, au fond, notre Dieu et leur Dieu, c'est le même Dieu. Et au-delà de cette question, qu'est-ce qui fait l'identité de Dieu pour notre collectivité et pour chacun d'entre nous? Est-ce que vous, moi, avons la même conception de ce Dieu que nous prions et que nous craignons parfois? Car c'est bien le sens du message que Paul, aux environs de l'an 50 de notre ère, adresse aux Athéniens. Ce Dieu inconnu que vous révérez sans le connaître, c'est le mien et je vais vous le présenter. C'est le mien et le vôtre car nous sommes issus d'un seul sang, nous habitons sur la terre et Dieu s'adresse à nous de manière universelle. Ce Dieu qui a voulu que nous le cherchions en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Et je trouve ça sacrément gonflé de la part de Paul de débarquer avec un discours comme ça devant les Athéniens de l'époque. Reprenons le contexte. Paul est juif, il a rencontré Dieu sur le chemin de Damas quelques années après la mort de Jésus-Christ Et depuis ce jour, il parcourt le monde méditerranéen de l'époque en prêchant le message de Jésus-Christ. À cette époque, les chrétiens n'existent pas encore. Ils n'apparaîtront vraiment qu'un siècle plus tard, même si le message des apôtres de Jésus-Christ commence à se singulariser du judaïsme. Chez les Juifs, c'est essentiel, il y a un Dieu qui n'appartient qu'à eux, un peuple élu, obéissant à une loi absolue, alors que chez les Grecs, il y a une quantité de dieux. Zeus, Apollon, Poséidon, Hermès, environ une douzaine, plus autant de demi-dieux, de muses, de titans, et j'en passe. Chaque dieu ayant une fonction, apparaissant ou disparaissant au fil des années, selon les circonstances et les besoins, ce qui est somme toute assez confortable. Et donc, Paul leur apporte un message franchement déstabilisant. Il y a un Dieu véritablement tout-puissant, un super Dieu, unique, qui surpasse et élimine tous les autres. Un Dieu qui n'a besoin ni de temple, ni d'offrande. Et qui plus est, ce Dieu des Juifs n'est plus seulement celui des Juifs, mais il a vocation à devenir le Dieu de tous les hommes, quel que soit leur pays et leur religion. C'est un peu comme si on apprenait aux hindous qu'ils vont devoir tirer un trait sur tout leur panthéon et le remplacer par un seul dieu, tout puissant, sans visage et sans histoire, avec lequel on ne peut pas marchander, on ne peut pas faire d'offrande ni de sacrifice. Alors pour essayer de répondre à cette question du dieu interchangeable ou universel, je voudrais vous emmener dans un premier temps regarder à quoi ressemble historiquement le dieu de chacune des trois religions du livre, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et puis nous regarderons dans un second temps si ce Dieu aujourd'hui est unique, double ou triple. Et quelles sont les conditions de la cohabitation de ce ou de ces dieux dans notre monde actuel. Pour commencer par comprendre la naissance du monothéisme, il faut en effet remonter au début de l'histoire du peuple juif, donc au tout début de la Bible, en commençant par Adam, Abraham, Noé, Moïse, puis les rois David et Salomon. On situe cette naissance aux environs de l'an moins 500 avant Jésus-Christ. Le premier Dieu, sans conteste, c'est celui des Juifs. Celui qu'on voit s'exprimer dans la Torah, qui sont, comme vous le savez, les 5 premiers livres de la Bible. Et aussi, on le voit s'exprimer dans la confession de foi que l'on appelle le Shema et qui reprend quelques versets du Deutéronome qui vous sont familiers. « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. » On s'adresse à un peuple, à ceux qui doivent ou qui veulent croire. Ça n'est pas un message universel, il est réservé aux Juifs et il n'a pas vocation à s'adresser aux autres peuples. L'Éternel est un, il est unique, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu pour un Juif, mais il est aussi unique dans ses actions, dans ses commandements, dans ses réactions. Il est donc à la fois amour, le plus souvent, miséricorde, mais aussi il est jaloux, guerrier, furieux. Et cette unicité de Dieu est aussi le modèle à atteindre pour l'homme. Et puis enfin, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, que les paroles, que les commandements que je te prescris soient aujourd'hui gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras dans ta maison, en voyage, en te couchant et en te levant. En clair, la foi en un Dieu unique et exclusif, ainsi que l'acceptation de la loi. 613 commandements tout de même. Tous ces préceptes forment la base du Dieu des Juifs. Alors ce Dieu-là, ce Dieu des Juifs, il existe encore dans la vie de Paul avant la route de Damas. Mais depuis sa révélation, beaucoup de choses ont changé dans sa vie. Et avant tout, la conception qu'il a de son Dieu. Quelques années après la mort de Jésus, on ne parle pas encore de christianisme, mais ses compagnons de route, les apôtres, ainsi que Paul, s'activent à la propagation du message de Jésus-Christ, qui deviendra progressivement une sorte d'incarnation de Dieu sur terre. Et la grande évolution de la prédication de Jésus-Christ par rapport aux prédicateurs juifs, elle porte sur deux points. Le premier, c'est l'ouverture de son message à l'humanité tout entière, et pas seulement aux autres juifs. Et le deuxième, c'est la concentration de ce message sur l'amour du prochain, sans distinction de condition. Mais tout le reste de l'identité du Dieu des Juifs est bien toujours là. Un Dieu unique, un Dieu qui commande, un Dieu tout-puissant. Et même si Paul se laisse un peu emporter par son sujet, il y a fort à parier qu'à ce moment-là, il ne songe pas à créer une autre religion, avec un nouveau Dieu. Il veut seulement faire évoluer le Dieu des Juifs vers les directions que l'on vient de mentionner. En vérité, il y a une autre différence entre ce christianisme naissant et le judaïsme existant. Cette différence, c'est la vocation des apôtres à être des missionnaires dans le monde, à répandre le message de Jésus-Christ et à convertir d'autres futurs croyants. On le voit bien dans ce livre des Actes des Apôtres, ces voyages, ces lettres, ces prédications enflammées auprès de tous ces peuples lointains. C'est un peu ce que j'appellerais des routards de Dieu. Ce que l'on appellera progressivement le christianisme, entre le 1er et le 4e siècle, est en fait né et s'est répandu en Palestine dès l'an 40, mais très vite aussi chez les juifs de langue grecque, puis dans les sociétés gréco-romaines non juives. Mais on peut dater l'avènement officiel du christianisme aux environs de 337, lors de la conversion de l'empereur Constantin au christianisme, qui deviendra religion d'État en 380, avec le succès que l'on connaît dans le futur. Le Dieu des chrétiens, le deuxième Dieu qui nous occupe aujourd'hui, est donc bien le descendant de celui des Juifs. En revanche, il a une vocation à répondre au plus grand nombre, à être diffusé largement, au détriment d'une religion exclusive. Mais reprenons notre raccourci historique pour en arriver à notre troisième Dieu, en parcourant rapidement 4 siècles pour arriver en l'an 600 à la Mecque, avec un nouveau prophète nommé Mahomet. C'est à la Mecque que Mahomet reçoit de la part de l'archange Gabriel la première série des révélations, qu'il retranscrira sous la forme de Coran. À cette époque, il est probablement en contact avec une secte chrétienne et il reconnaît lui aussi la généalogie du peuple de Dieu depuis Abraham. Pour autant, il fonde une nouvelle religion avec un groupe de croyants qu'on appelle les musulmans. À cette époque, Mahomet est un homme discret et paisible. Les sourates qu'on dit mécoises en attestent. Lui non plus, je ne suis pas sûre à cette époque qu'il veuille créer un nouveau dieu. Quelques années plus tard, après pas mal de conflits, il est chassé avec les musulmans vers Messine, et c'est là qu'il retranscrira la deuxième partie du Coran, celle qui le transforme réellement en chef de guerre. Le visage de son Dieu s'en ressent, car à partir de cette époque, l'évolution de l'islam est étroitement liée à l'histoire politique, économique et surtout militaire. Après la mort de Mahomet, en effet, l'islam va mener un siècle de conquêtes guerrières pour aboutir à l'immense empire musulman qui ira de l'Atlantique jusqu'à l'Asie centrale et sera finalement arrêté de notre côté par Charles Martel, vous connaissez la date, 732, à Poitiers. C'est une des premières dates qu'on apprend à l'école primaire, je crois encore. Ce siècle de conquêtes sera suivi d'une phase de révolution intellectuelle de 7 siècles supplémentaires jusqu'au 14e siècle, au cours de laquelle les intellectuels du Moyen-Orient confrontent leurs convictions en utilisant les sciences et les philosophies grecques. Commence alors ce qu'on a appelé l'âge d'or du Moyen-Orient, de la pensée du Moyen-Orient, qui connaîtra son apogée au XIIe siècle. La philosophie, la médecine, les sciences et techniques de la région resteront les plus avancées du monde jusqu'au XIVe siècle. Le dieu de l'islam, petit-fils de celui du judaïsme, neveu de celui du christianisme, est donc un dieu contrasté, changeant, mais qui réunit plusieurs caractéristiques essentielles. D'abord, c'est un chef, un commandant, qui règne sur les âmes et les corps de ses fidèles à travers un nouveau livre sacré qu'on appelle le Coran. Il peut être paisible et tolérant, mais il peut être aussi violent, guerrier, voire sanguinaire. Il est raffiné, cultivé, ouvert aux sciences et aux progrès techniques. Et il a la conviction que sa religion doit être universelle et il veut régner sur le monde. En résumé, je crois qu'il n'y a pas de doute possible. C'est bien le même Dieu, celui qu'on appelle successivement Yahvé, Dieu et Allah. C'est le Dieu d'Abraham, celui qui reconnaît la même lignée de fondateurs et de prophètes. Adam, Noé, Abraham, Moïse, Job, David et Jésus. Premier point commun. C'est un Dieu unique, tout puissant, qui s'impose à tous pour la première fois de l'humanité. Deuxième point commun. Et enfin, troisième point commun, même si on constate quelques variantes de forme et de style dans ces commandements, on retrouve les deux principaux qui sont l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Comme dans le verset de la lettre aux Éphésiens que nous avons lu, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Alors, première remarque après ce constat, est-ce que l'on doit aller beaucoup plus loin pour définir un Dieu collectivement ? Car si nous partageons avec les Juifs et les musulmans ce Dieu unique, qui nous demande de le respecter et d'aimer notre prochain, est-ce que cette base ne devrait pas constituer un socle de fraternité universelle ? Idéalement, on devrait pouvoir s'arrêter là et développer chacun en pratique avec quelques variantes, une pratique avec quelques variantes en fonction des époques et des pays. Mais dans la vraie vie, c'est bien à cause de ce Dieu commun que nous nous étripons depuis des siècles entre chrétiens, entre juifs et chrétiens, entre musulmans et les autres. Et il faut bien constater que les religions monothéistes sont celles qui ont provoqué le plus grand nombre de guerres et le plus grand nombre de morts depuis 2 millénaires. En fait, la question devrait plutôt être pourquoi les églises, nos églises, toutes les églises, ont bâti des forteresses de constructions compliquées, d'interprétations uniques et parfois combinatoires, à propos de tout ce qui régit la relation entre Dieu et les hommes. On pourrait presque parler d'un cercle vicieux qui s'instaure dès qu'on conçoit un Dieu unique. On conçoit une religion génère une église, l'église génère une armée défensive ou offensive. Et il n'y a effectivement aucune exception à cette règle. En plus des églises, il me semble que nos pratiques religieuses personnelles, quelle que soit la religion, quelle que soit l'époque, se heurtent à deux écueils, à deux tentations essentielles. La première tentation, c'est celle qui consiste à figer Dieu dans un total immobilisme, de se raccrocher à une image d'Épinal qui mêle tradition familiale et communautaire, éducation, tout cet environnement confortable que nous aimons et qui nous rassure. Et pourtant, Dieu doit évoluer, comme évoluent les hommes. Sinon, nous ne serions pas là aujourd'hui dans un temple protestant. À toutes les époques, on doit secouer la religion, se poser et se reposer les questions, comme l'ont fait les réformés du XVe siècle, pour en faire une religion vivante qui répond aux espérances des hommes à un moment donné de leur histoire. La deuxième tentation, c'est celle de l'interprétation strictement littérale de l'Écriture, que ce soit la Torah, la Bible ou le Coran. Finalement, c'est beaucoup plus simple de prendre un texte au pied de la lettre plutôt que de le transposer dans un contexte qui change et d'en tirer des enseignements qui changent aussi au fur et à mesure des siècles qui passent. Il faut pour cela admettre la métaphore, aller chercher le sens au-delà du sens, comprendre ce que Dieu veut nous dire au-delà du signe, comprendre surtout ce qu'il veut nous voir chercher. Et autant on aura du mal à se battre contre les églises du monde entier, autant on peut essayer de changer notre façon de résister ou pas à ces deux tentations. Est-ce qu'on ne trouve pas dans la Bible des pages entières de contradictions ? Des régimes alimentaires, des règles de vie en société liées aux contraintes d'il y a 2000 ans, des règles d'habillement ou de bienséance qui n'ont plus aucune raison d'être aujourd'hui. Sans parler de l'égalité homme-femme qui sera chère à ma fille Madeleine. Il me semble que tout le surplus est justement une construction humaine qui n'a rien à voir avec lui. Rappelez-vous dans le texte, il n'habite point dans des temples, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Est-ce qu'au fond, on ne devrait pas s'en tenir à cet essentiel ? Tout comme les Grecs au 1er siècle, nous avons évolué dans la réalité que nous mettons derrière le mot « Dieu ». À partir des textes bibliques, nous avons probablement à chaque génération, dans chaque pays, construit une idée de Dieu, collectivement ou personnellement. Et c'est précisément ce qui est intéressant, car la grande différence tient dans le fait que la réalité de Dieu a été dictée par une église ou par une recherche personnelle. Ne nous laissons pas offrir ou imposer une vérité toute faite et indiscutable. Rappelons-nous que Dieu parle à tous et à chacun d'entre nous. Souvenons-nous du texte « Dieu a voulu que les hommes cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » C'est dans cette relation unique et singulière que nous construisons avec Dieu que nous pouvons véritablement avancer. Avancer sans la contrainte des rites, sans l'autorité des prêtres, sans la loi qui cadre et qui condamne. Avancer d'une façon comparable à celle des premiers chrétiens, mais pas comme les premiers chrétiens, car notre vie, notre environnement n'a rien à voir avec le leur. La science nous a appris que Dieu n'avait pas créé le monde. Le recul de notre raison nous a convaincus que Moïse n'a probablement pas ouvert la mer Rouge. Et aussi que Adam n'avait probablement pas eu d'enfant à 110 ans. Pour autant, nous trouvons dans la Bible des paroles tout aussi inspirantes, tout aussi actuelles, qui nous accompagnent dans notre cheminement vers le même Dieu que nos ancêtres. Certaines sont métaphoriques, d'autres totalement intemporelles. Nous les adaptons à notre vie moderne en essayant de garder l'essentiel. Notre relation à Dieu, intime, personnelle, se construit à notre rythme. Parfois nous l'aimons, parfois nous le rejetons en bloc, mais cette quête nous porte, nous inspire. Une bonne part de notre Dieu est créée par nous, dans le secret de notre âme, après une lecture biblique, après une rencontre, après une prière, dans la joie et dans la peine, en tâtonnant jour après jour. Accepter cette part d'invisible, mettre notre liberté de penser à l'épreuve de sa confiance, de l'espérance qu'il nous propose, c'est quitter notre quotidien et son lot de découragement. Mais c'est là qu'il nous attend. En commençant à rédiger cette prédication, je vous avoue que j'espérais pouvoir vous laisser en conclusion une ou deux idées simples sur la cohabitation de notre triple Dieu et sur la réponse à donner à tous les frères Kouachi de la Terre. En vérité, ce n'est pas si simple, vous l'aurez compris. Et il faudra que vous continuiez à vous poser des questions. Et c'est peut-être là la solution. Continuez sans cesse à se poser des questions, remettre en cause des idées ou des interprétations toutes faites, chaque jour et avec chacun. Et à titre d'exemple, pour terminer cette prédication, je voudrais vous relire un petit texte de Charles Wagner, qui est un extrait de la Déclaration de principes du foyer de l'âme. Elle a été écrite en 1907, à la fondation de cette église, lors de sa fondation. Et il y a quelques années, lorsqu'avec le Conseil presbytéral, nous avons remodelé le site web du foyer de l'âme, il y a 2 ou 3 ans, nous avons souhaité remettre à jour ce texte. C'est quand l'EPUF a été formée avec les luthériens. Et nous l'avons relu, et nous avons souhaité le remettre à jour, le dépoussiérer pour qu'il corresponde mieux au XXIe siècle. Et après avoir parlé longuement entre conseillers, il nous a semblé qu'en en définitive, il n'avait pas pris une ride. À vous de juger. Le foyer de l'âme est ouvert à toute personne qui espère trouver un encouragement à sa vie intérieure et à sa bonne volonté envers ses semblables. Sa base est l'Évangile, dans ce qu'il a d'éternel, de commun à tous les âges et à tous les hommes, de pacifiant et de libérateur. Rattaché au protestantisme dans sa forme large et libérale, nous n'excluons aucune forme d'esprit religieux, ni aucune tendance sociale et respectueuse de la liberté des autres. Nous ne voulons rien négliger de ce que le passé nous a laissé de bon, de réconfortant, de consolant. Mais nous sommes avant tout de notre temps et cherchons à nous rendre utiles à nos contemporains en parlant la langue d'aujourd'hui. Les hautes vérités qui dominent la vie doivent trouver à chaque époque une expression adaptée à sa culture et à ses besoins. Nous appelons à nous tous ceux que l'expérience et la réflexion ont amenés à désirer pour eux et pour leurs enfants des convictions et une règle de conduite en harmonie avec le devoir actuel. Et nous demandons l'unité, non à l'uniformité d'un credo, mais au libre consentement des bonnes volontés orientées vers le même but. Et Charles Wagner conclut en ces termes : ici, on enseigne l'humanité. Amen.